Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Va-t-il lâcher la présidence de l'Assemblée nationale face aux soupçons judiciaires ? Richard Ferrand est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Une affaire qui remonte à 2011 quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Nous analyserons les conséquences politiques dans un instant.
Et puis vous entendrez ensuite le témoignage d'un maire agressé physiquement dans sa commune. Aujourd'hui, le gouvernement reçoit certains élus pour tenter de trouver des solutions concrètes.
À l'aube de l'ouverture du salon de Francfort, l'industrie automobile allemande va mal et avec elle toute l'économie du pays. Nous irons près de la plus grande usine automobile au monde, en Basse-Saxe.
Et puis nous irons aussi à Bruxelles, où un sommet mondial sur la vaccination est organisé aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi.
Jean-Luc Mélenchon est-il victime d'une justice politique ? Question posée par Frédéric Seyss. Il nous rejoint après cette édition pour le billet politique. Il y a 2 ans, il se disait blanchi. Le voilà mis en examen ce matin. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est soupçonné de prise illégale d'intérêt pour l'attribution d'un contrat quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Contrat de location d'un local décroché par une société au nom de sa compagne. L'affaire a déjà coûté à Richard Ferrand son poste de ministre de la Cohésion des Territoires. Elle le rattrape donc aujourd'hui au perchoir. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Richard Ferrand, Stéphane, est le 4e personnage de l'État. Peut-il le rester ?
Sur le plan de la légalité, rien ne l'oblige à démissionner. Une mise en examen ne vaut pas culpabilité. Richard Ferrand bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais politiquement, c'est plus compliqué. Et ça pour 4 raisons. Premièrement, vous l'avez dit, parce qu'il avait déjà démissionné à cause de cette même affaire il y a un peu plus de 2 ans, en 2017. Richard Ferrand avait été contraint de quitter son poste de ministre de la Cohésion des Territoires 1 mois seulement après sa nomination. On ne voit donc pas bien pourquoi les mêmes causes n'entraîneraient pas les mêmes effets aujourd'hui. Deuxièmement, parce que c'est la règle qu'a édictée le Premier ministre pour son gouvernement en début de quinquennat. Un ministre, s'il est mis en examen, il démissionne, avait dit Édouard Philippe. Là encore, on ne voit pas bien pour quelle raison un président de l'Assemblée nationale serait exonéré de la règle à laquelle doit impérativement se tenir un ministre. Troisièmement, parce que d'autres ont été contraints de démissionner pour moins que ça. François de Rugy, avec l'affaire des homards cet été, il a quitté son ministère sans pour autant avoir été inquiété par la justice. Enfin, quatrièmement, ce serait un nouveau coup de griffe dans la promesse de république exemplaire édictée par Emmanuel Macron au moment de son élection, et ça au lendemain de la crise des Gilets jaunes, et alors que s'annoncent de nouvelles réformes difficiles à mettre en œuvre. C'est un peu de nature à fragiliser le président et sa majorité. Pour autant, le président soutiendrait Richard Ferrand. C'est ce qu'indiquerait son entourage selon nos confrères de France Info.
Et ce matin également, Stéphane, j'ajoute qu'Anticor, l'association qui s'est portée partie civile dans ce dossier, estime que Richard Ferrand doit quitter son poste. Alors en tout cas, cette mise en examen annoncée hier soir, Stéphane, est justifiée par des éléments troublants de l'enquête.
Eh bien, disons que les réponses apportées par Richard Ferrand n'ont, semble-t-il, pas levé les zones d'ombre de cette affaire. En tout cas, elles n'ont pas convaincu les enquêteurs. Rappelons que cette affaire remonte au mois de janvier 2011. Richard Ferrand était alors directeur des mutuelles de Bretagne. Il avait convaincu le conseil d'administration de signer une promesse de location d'un bâtiment que n'avait pas encore acheté sa compagne. Elle avait pu l'acheter, ce bâtiment, grâce à un prêt bancaire sur la base de cette promesse de location. Or, le montant du remboursement de ce prêt était entièrement couvert par le montant de la location, 3600 euros par mois, ce qui fait que sa compagne a pu acheter le bâtiment sans pratiquement débourser 1 euro, d'où cette prise illégale, ce soupçon de prise illégale d'intérêt.
Merci beaucoup Stéphane Robert du service politique de France Culture. Merci pour ces premières précisions ce matin. Eux sont sortis souriants hier soir de leur audition par la police judiciaire. François Bayrou et l'ancienne députée européenne Marielle de Sarnez étaient entendus dans le cadre de l'enquête sur des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens au Modem. Ils sont ressortis libres hier, idem pour Sylvie Goulard la veille. Insultes, menaces, agressions physiques, les incivilités envers les maires de France ont augmenté de 4% entre 2017 et 2018. Elles sont toujours très nombreuses cette année. Preuve en est le décès du maire de Signes dans le Var cet été dans l'exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, jeudi, des élus victimes de ces faits vont déjeuner avec le ministre Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales. Ils viendront y chercher un soutien et surtout des solutions concrètes. Rosalie Lafarge a joint pour France Culture l'un des élus invités victimes d'une agression. C'était à la fin du mois de juillet.
Prévenu de l'installation sauvage de gens du voyage sur un terrain de sa commune, Jean-Marc Bergia, le maire d'hiver gauche de Saubens en Haute-Garonne, se rend sur place et s'interpose.
Donc j'ai été pris à partie et violemment projeté au sol. J'ai même un véhicule qui m'a touché une des jambes pour essayer de m'intimider. J'ai été maintenu par un gars qui était beaucoup plus costaud que moi et m'empêchant de pouvoir faire tout mouvement, plaqué au sol pendant plusieurs minutes.
S'il a la malheureuse habitude des violences verbales, l'élu n'avait encore jamais vécu une telle violence physique.
Je me suis fait très peur parce que effectivement j'aurais pu y laisser la peau parce qu'il aurait pu me planter un couteau, me mettre à coups de pelle parce qu'il y en avait quatre avec des pelles. Voilà, on imagine le pire et le pire est possible dans ces situations-là. Donc je vous cache pas que pendant les jours qui ont suivi, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la tête avec notamment la remise en cause de mon mandat pour me représenter en 2020.
Il a malgré tout décidé de se représenter l'an prochain, mais le constat de Jean-Marc Bergia est amer.
On n'a plus ni l'autorité, ni le respect.
Et le maire espère de réelles avancées grâce au projet de loi de Sébastien Lecornu sur le statut de l'élu.
Très clairement, on est tous les uns et les autres en attente de clarification opérationnelle pour pouvoir faire sur le terrain sans avoir à faire 10 milliards de démarches qui prennent un temps fou et qui finissent par faire classer les affaires parce que ça ne peut pas arriver au bout. Quoi.
Selon son entourage, le ministre des Collectivités se dit prêt à compléter son projet de loi pour y inclure, si elles sont pertinentes, les propositions des maires.
L'ouverture à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes franchit un premier obstacle à l'Assemblée nationale. La mesure a été votée hier soir par la commission spéciale de l'Assemblée. Elle est inscrite, je vous le rappelle, dans le projet de loi sur la bioéthique. Ce projet-là est loin d'être rédigé encore. Pour réformer les retraites, le gouvernement veut prendre son temps. Le Premier ministre Édouard Philippe va dévoiler aujourd'hui le calendrier et la méthode de cette réforme, alors que demain, une première grève contre le projet de loi est prévue dans les transports en commun en région parisienne. Le trafic sur le réseau de la RATP s'annonce très perturbé demain. 10 lignes de métro seront notamment totalement interrompues. Seront-ils finalement rejugés comme des lanceurs d'alerte? Une inspectrice du travail et un salarié de l'entreprise Tefal sont aujourd'hui devant le tribunal de Lyon. Ils avaient été condamnés pour violation du secret professionnel et recel de documents confidentiels appartenant à la société Tefal. Un jugement annulé par la Cour de cassation depuis une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. L'inspectrice du travail doit-elle maintenant bénéficier des protections liées à ce statut? Voilà ce que devra déterminer la justice aujourd'hui, après 6 ans de procédure, Catherine Pétillon.
Tout commence en janvier 2013. L'inspectrice du travail se penche alors sur un accord sur le temps de travail au sein de l'entreprise Tefal, accord qu'elle juge non conforme à la loi. Elle subit alors des pressions de sa hiérarchie et quelques mois plus tard, un salarié de l'entreprise lui fait parvenir des documents confidentiels, des mails laissant penser qu'il y aurait collusion entre les patrons de Tefal et le supérieur hiérarchique de l'inspectrice afin que cette dernière soit écartée. La fonctionnaire transmet alors ses documents à plusieurs syndicats et l'affaire est rendue publique en décembre 2013. Tefal porte plainte, notamment pour violation du secret professionnel. L'inspectrice du travail et son informateur sont condamnés en première instance, puis en appel, une condamnation annulée l'an dernier par la Cour de cassation. Car entre-temps, fin 2016, a été promulguée la loi dite Sapin 2, un texte qui définit un statut et des protections pour les lanceurs d'alerte. C'est donc à l'aune de cette nouvelle loi, dit la Cour de cassation, que doit être jugée l'inspectrice du travail. Cette dernière soutient depuis le début qu'elle a agi en lanceuse d'alerte avec pour but de dénoncer la volonté de Tefal d'entraver son travail. Plusieurs syndicats appellent à un rassemblement ce midi devant le tribunal de Lyon. Ils espèrent que l'inspectrice sera innocentée et Tefal poursuivie et plus largement que l'indépendance des inspecteurs du travail sera reconnue devant les tribunaux.
La Banque Centrale Européenne pourrait annoncer une nouvelle baisse des taux aujourd'hui. Un jargon pour certains, mais les taux choisis par la BCE ont une incidence directe sur les économies réalisées ou non par les pays. Ainsi, la France, grâce à la politique accommodante de la BCE en ce moment, la France a réduit de 2 milliards d'euros ses charges d'intérêt cette année. Marie Viennot nous explique comment.
La France a prévu d'emprunter 227 milliards d'euros sur les marchés financiers cette année. 98 milliards pour couvrir le déficit de son budget et 129 pour rembourser les anciens prêts qui arrivent à échéance. Ces montants colossaux sont empruntés par petits bouts. Deux fois par semaine, l'agence France Trésor, qui à Bercy s'occupe de cela, met un montant aux enchères et les banques annoncent les taux auxquels elles peuvent prêter. Ces taux dépendent de la confiance que leur inspire la France comme emprunteur et surtout des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Or, depuis 2016, ces taux sont à zéro. Mieux encore, pour éviter le marasme économique et la déflation, la Banque Centrale Européenne a acheté pendant des mois des titres de dette des pays de la zone euro, ce qui a aussi fait baisser les taux et par ricochet les montants que la France paye en intérêts pour ses 2000 milliards de dettes. En 2019, donc, le budget avait prévu 42 milliards d'euros consacrés au paiement de la charge des intérêts de la dette, mais au final, ce sera 2 milliards d'euros en moins. Un chiffre très important qui pourrait doubler en 2020, 4 milliards, la BCE s'étant engagée à poursuivre et même accélérer cette politique très accommodante l'an prochain.
Il tombe ce matin sur la tête des Britanniques comme un coup de massue. On le surnomme le Yellow Hammer, le marteau jaune. Il s'agit de ce rapport tenu jusqu'ici secret et il a été publié au Royaume-Uni sur demande des députés britanniques. Un rapport qui prévoit les conséquences d'un Brexit dur côté anglais et elle serait catastrophique car pour l'instant rien n'est prêt. Les experts s'attendent à des pénuries de produits frais, de médicaments, des files d'attente aux frontières et des tensions, notamment en Irlande du Nord. La France, elle, se prépare en ce moment et notamment ce matin avec un test sur le Brexit dur, grandeur nature à Ouistreham. Nous serons sur place tout à l'heure lors du journal de 9h.
En attendant, il est 8h10 sur France Culture. C'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le salon de l'automobile de Francfort ouvre ses portes au public ce matin en pleine récession allemande.
Et l'un ne va pas sans l'autre, Guillaume. Le salon automobile est réduit cette année à peau de chagrin à cause d'une lourde perte de la production automobile. Et c'est en grande partie pour cela que l'économie allemande vacille. Voici ce matin un exemple concret. Dans la ville symbole du premier constructeur mondial, Volkswagen. Depuis 80 ans, la ville de Wolfsburg et ses 120 000 habitants vivent au rythme des succès et des déboires de la plus grande usine automobile du monde, Ludovic Piétenu.
L'automobile à Wolfsburg, c'est presque une religion. C'est un pilier de l'économie qui, comme l'ensemble de l'industrie allemande, réalise la moitié de son chiffre à l'export.
D'ici, plein de voitures partent partout dans le monde entier.
Carola a 65 ans et quand elle dit cela, on lit sur son visage une forme de fierté et de confiance dans l'économie allemande.
Moi, je n'ai pas peur. C'est vrai qu'on vit bien en Allemagne.
Mais les voyants sont pourtant bien rouges. La production industrielle est au plus bas depuis 20 ans. Les entrepreneurs et les investisseurs ont le moral dans les chaussettes. Et c'est inédit depuis la crise financière de 2008. Il ne faudrait pas que les choses empirent, selon Hartmut, un banquier de Wolfsburg à la retraite.
Une catastrophe. S'il y a récession, Volkswagen va mettre tout le monde à temps partiel. Les gens ici ont tous acheté un bel appartement et ils doivent rembourser leur crédit. Et avec cet argent qu'ils n'auraient plus, il se peut qu'ils ne puissent plus payer leur mensualité. Ce serait la catastrophe.
Face à des événements mondiaux qui la dépassent mais qui entraînent sa chute, l'Allemagne a jusqu'à présent pu compter sur les Allemands et leur forte consommation. Mais jusqu'à quand? Car ce chiffre-là aussi montre des premiers signes de faiblesse.
C'était Ludovic Piétenu depuis Wolfsburg en Basse-Saxe pour France Culture. Les constructeurs automobiles se tournent maintenant de plus en plus vers l'électrique, mais à marche forcée. C'était l'objet d'ailleurs du reportage de la rédaction ce matin à 7h20. Un reportage à retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. La Cour suprême américaine vient d'offrir à Donald Trump une victoire sur le droit d'asile. Elle valide la stricte limitation des demandes d'asile de migrants venus d'Amérique centrale seulement. La mesure doit donc s'appliquer même pendant la bataille judiciaire en pleine pré-campagne présidentielle aux États-Unis. Zoom maintenant sur un sommet mondial de la vaccination. Il est organisé par l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Il se tient aujourd'hui à Bruxelles. Au milieu de médecins, d'experts, de ministres de la santé, des spécialistes de la communication ont été invités. Car dans les pays riches, en Europe notamment, la vaccination recule à cause de la désinformation, Pierre Benazet.
L'objectif de ce sommet est à la fois de relancer la vaccination et de lutter contre la désinformation sur les vaccins. Selon l'association de l'Alliance européenne pour la santé publique, il est difficile de quantifier le nombre d'Européens non vaccinés, mais on peut mesurer dans l'Union un recul de la vaccination par la résurgence de maladies qui devraient être aujourd'hui éradiquées. C'est le cas par exemple pour la rougeole. Anca Pedoraru, porte-parole du commissaire européen à la santé.
Quand on parle par exemple de rougeole, il y a une augmentation du nombre de cas cette année et ces derniers mois, trois pays de l'Union européenne, la Tchéquie, la Grèce et le Royaume-Uni, ont perdu pour la première fois leur statut de pays ayant éliminé la rougeole. Ça, c'est très important parce qu'il y a des vaccins pour la rougeole. Ça a été éliminé normalement de l'Europe. C'est inacceptable. Ça risque de mettre en péril des vies, surtout des vies des enfants.
Si les Scandinaves sont les mieux informés et les mieux vaccinés, il y a tout de même 85% des Européens qui estiment la vaccination efficace. Malgré tout, 38% croient encore qu'un vaccin peut causer la maladie contre laquelle il est censé protéger. Pour les organisateurs de ce sommet, il faut donc lutter activement contre la désinformation.
C'était Pierre Bédazet depuis Bruxelles. Nous revenons en France pour les prévisions météo de ce mercredi. Le temps sera contrasté avec un retour du soleil dans le sud et un ciel plus couvert sur le reste du pays. Ce matin, il fait 18 degrés à Brest, 19 à Lille, Strasbourg et Bordeaux, 20 degrés ce matin en région parisienne, 22 à Lyon et 26 à Nice.